On est dans une situation qui reste extraordinairement précaire, avec une solution politique qui vient, dans les trois dernières années, de faire des avancées, mais qui reste extrêmement fragile. La tension reste perceptible, et surtout en province, dans le Sud-Soudan, il y a de nombreux des affrontements qui ne sont pas des affrontements toujours très politiques, mais qui manifestent la présence de différents groupes armés qui restent non organisés, non structurés et non intégrés et contrôlés par l'État. Il y a un accord au sommet qui vaut ce qu'il vaut, il y a des institutions qui peinent à se mettre en place depuis 10 ans, et il y a une population qui quand même souffre beaucoup. La pauvreté a augmenté depuis l'indépendance, hein, on est passé de 50 à 80%. Malgré tout, dans ce qu'on peut estimer de l'opinion publique sud-soudanaise, personne ne regrette l'indépendance, même si celle-ci, pour l'instant, a bien du mal à se traduire par une amélioration de la situation quotidienne de l'essentiel de la population.
Personne ne regrette l'indépendance. Toutefois, le pays reste miné par les conflits, tout ce que vous venez de dire, l'incertitude économique, la famine, l'instabilité sociopolitique, les guerres, la famine. Est-ce parce que l'indépendance de ce pays a été mal préparée que tout cela persiste?
Oui, évidemment, et en même temps, il faut bien dire que c'était quand même très compliqué. D'abord, l'étage de l'indépendance, notamment la construction d'un appareil d'État, beaucoup de gens, et notamment aux États-Unis, ont pensé qu'il s'agissait de la reconstruction. Une instabilité sécuritaire qui a beaucoup pesé, avec une absence totale de volonté de Khartoum d'aider à la construction d'un appareil d'État. Le projet politique et social de l'après-indépendance n'a jamais été préparé et n'était même pas toujours très clair dans l'esprit, souvent de commandants locaux et évidemment des combattants. Donc évidemment, quand tout d'un coup il a fallu administrer des zones, mettre en place des politiques publiques, bon, bah, tout ça a semblé extrêmement difficile.
Qu'en est-il de l'appui de la communauté internationale?
La communauté internationale a fait beaucoup d'efforts, notamment les États-Unis. Mais d'un autre côté aussi, dépenser de l'argent, c'est une chose. Suivre de façon réaliste les problèmes, être un partenaire, être un ami qui soutient. Et là, de ce point de vue-là, on peut dire que la communauté internationale a failli entre la signature de ce qu'on appelle le Comprehensive Peace Agreement, hein, en janvier 2005, et l'indépendance du Sud-Soudan en juillet 2011.
Est-ce qu'il y a des chances que le Soudan du Sud devienne un pays normal?
Je crois que beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le Sud-Soudan estiment que la première génération, comme c'est d'ailleurs un peu le cas pour l'Érythrée, hein, sera une génération perdue, au sens où ces gens-là vont quand même souffrir encore beaucoup, parce que les problèmes là qu'on dit, qu'aujourd'hui on décrit entre Nuer et Dinka, ou entre Riek Machar et Salva Kiir, hein, je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il faille voir les choses, mais enfin, c'est la façon dont on décrit ces problèmes le plus souvent. Ça va malgré tout durer, même si aujourd'hui on est dans une phase un peu moins difficile qu'après 2013. Et évidemment, ça va prendre beaucoup de temps. Faire rentrer dans la logique des acteurs armés le fait qu'il y a une population qui a des droits, que eux, mouvements armés ou combattants, n'ont pas seulement des droits, ils ont aussi des devoirs.
Et ces élections, dont les partenaires du Soudan du Sud veulent la préparation, pensez-vous qu'elles pourraient changer la donne?
Comme toujours, on gagne du temps, c'est-à-dire qu'on va préparer une constitution pour aller aux élections qui sont maintenant prévues pour 2023. Alors, encore une fois, compte tenu de ce que j'ai dit, de la réalité sociale un peu, avoir une constitution ne me paraît pas la chose la plus essentielle, et ça me paraît surtout être une façon à nouveau de dépenser beaucoup d'argent. Bon, c'est pas forcément inutile, évidemment, mais je crois qu'il y a d'autres problèmes à régler, notamment des réconciliations entre les différents groupes armés et des communautés locales. Ces réconciliations permettraient à terme de faire baisser la tension. Bon, la communauté internationale se sent certainement plus à l'aise en finançant l'écriture d'une constitution, alors que très peu de gens seront capables de la lire, et encore moins de gens capables de la comprendre, et sans doute parmi eux très peu disposés à la mettre en œuvre. Bon, mais soit, hein, si c'est ça le choix aujourd'hui des autorités de Djouba, eh ben il faut aller dans cette direction-là. Mais encore une fois, je crois que c'est pas le juridisme qui sauvera le Sud-Soudan de l'hostilité, c'est la reconstruction d'un tissu social avec une dimension de réconciliation et de réparation extrêmement importante, et sans doute à terme également le fait que les comptes en banque de tous ces grands responsables soient ramenés pour servir au développement du Sud-Soudan et pas simplement à leur enrichissement personnel et à l'envoi de leurs enfants dans les universités internationales.